Radar des sorties sur RCN avec Ludo.
Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode du Radar des sorties, votre émission musicale riche en coups de cœur et découvertes les vendredis à 17h sur RCN. Votre fidèle hôte Ludo vous fait l'honneur de vous parler de Mitski. Avec la sortie de son dernier album Nothing's About to Happen to Me, je me suis dit que ce serait intéressant de revenir sur la mise en art rock de ses luttes contre les déceptions amoureuses. Si elle essaye de décrire sa musique, elle affirmerait comme un trou noir où tous les sentiments privés des auditeurs cohabitent. Elle cerne assez facilement la vulnérabilité de ses fans entre amour, haine et colère, et ce souvent quand il est question d'amour à sens unique. On s'en écoute un extrait.
I'd never live in a small town. I've made too many mistakes. For where you gotta write your book early, or it gets written up in your place. Where you never get away from your first love. It's like...
C'était In a Lake, premier morceau du projet donnant le ton sur l'imagerie maussade dont elle peut faire preuve. Mais c'est justement cette mystique qui a construit sa popularité depuis quelques années. Ma curiosité me pousse à m'interroger sur le pourquoi du comment, alors vous connaissez la musique, nous sommes partis. De son nom complet, Mitski Miyawaki née Laycock, elle voit le jour le 27 septembre 1990 dans la préfecture de Mie, au Japon. Elle possède une binationalité de par son père américain et sa mère nippone. Son environnement familial est propice à la musique folk assez répandue au pays du soleil levant. Je vous recommande d'ailleurs d'aller écouter certainement la plus réputée actuellement qui est Ichiko Aoba. Mais son éducation musicale ne s'arrête pas là. Son père l'amène à s'intéresser aux musiques du monde et évidemment la J-pop qu'en Occident nous avons tendance à considérer comme de la city-pop pour l'esthétique nocturne derrière les morceaux mi-pop, mi-disco des années 70 et 80. Ce même père qui lui ouvre de nombreuses fascinations l'oblige par son métier qu'elle n'a jamais révélé à déménager entre 13 pays durant toute sa jeunesse, principalement dans les continents tels que l'Asie du Sud, l'Orient ou encore l'Afrique centrale avant de s'établir pour de bon dans la ville de New York. Curieuse du cinéma, elle intègre l'université Hunter College avant de se réorienter vers le conservatoire de musique de Purchase College. Étudiant la composition studio, elle y profite pour produire ses deux premiers albums studio, Lush and Retired from Sad, New Career in Business, respectivement en 2012 et 2013. Ils feront office de projet d'études, obtenant son diplôme l'année suivante. Elle produit et sort son troisième projet, Bury Me at Makeout Creek, où on y retrouve les pépites Francis Forever, évoquant un besoin de permanence face à quelqu'un qui n'est plus là. Mitski explore le vide laissé par l'autre au point de perdre son propre sens de l'orientation. Et Last Word of a Shooting Star, qui la prépare à la mort, réelle ou métaphorique, et le soulagement paradoxal qui l'accompagne. Elle sort tous ses projets en tant qu'artiste indépendante avec l'aide du label Double Double Whammy. Si les deux premiers albums étaient fondamentalement composés sur du piano et des orchestres du conservatoire, le troisième l'a fait basculer vers les guitares électriques. C'est ainsi qu'elle engage sa transition artistique vers l'indie et l'alternative rock. Elle signe le 22 octobre 2015 sur le label Dead Oceans, produisant l'année suivante son quatrième projet Puberty 2, avec ses premiers succès nationaux Your Best American Girl, traitant de l'identité, de la culturation et de l'impossibilité de s'intégrer totalement dans un idéal amoureux occidental. Abate on Losing Dogs, un morceau autour de la métaphore brutale pour parler de dépendance affective qui a eu un second renouveau avec les plateformes telles que TikTok, et A Burning Heel aux influences folklore appelant notamment Lana Del Rey autour de la dépression et du contrôle. Mitski se compare à une colline en feu qu'elle observe de loin, elle ne cherche plus à éteindre l'incendie, en l'occurrence sa tristesse. Elle choisit simplement de porter une chemise propre et de faire semblant que tout va bien pour survivre à la journée. Mitski explore une deuxième puberté dans cet album, ce moment de l'âge adulte où l'on réalise que les émotions ne deviennent pas plus simples avec le temps, mais plus complexes et dévastatrices. L'album oscille entre l'explosion rock et un minimalisme presque insoutenable. En 2018, elle atteint une popularité bien plus importante avec la sortie de Be the Cowboy le 17 octobre de la même année. Si l'album précédent était un cri dans un garage, celui-ci est une performance théâtrale sous les projecteurs. Mitski explore la solitude, mais de manière beaucoup plus stylisée, presque cinématographique. On y retrouve les hits Pink in the Night, le rose évoquant autant la confusion du sentiment que la couleur du sang et des joues qui rougissent. C'est un morceau sur les cycles sans fin de tomber amoureux. Two Slow Dancers, que j'affectionne personnellement pour le côté nostalgique sur lequel elle écrit toute une tragédie assez romantique. Elle y imagine deux anciens amants qui se retrouvent dans un gymnase d'école pour une dernière danse, conscient qu'ils ont vieilli et que le monde a changé. Et enfin, Nobody, qui par le biais de TikTok à nouveau deviendra son premier succès mondial, étalant sur sa recherche désespérée de connexion humaine et caractérisant l'expression d'un vide que rien ne semble pouvoir combler. Quatre ans plus tard, c'est au tour de Laurel Hell de voir le jour, mais là, c'est le premier creux de la vague. Le projet passe inaperçu pour bon nombre de personnes, et ce malgré des morceaux notables tels que Heat Lightning. Autour de l'insomnie, de l'abandon, il capture le moment suspendu où l'on attend l'orage immobile dans le noir. Love Me More, le besoin maladif de validation et l'utilisation de la performance ou de l'art pour combler un vide intérieur. Mitski demande d'être aimée beaucoup plus pour ne pas avoir à s'affronter elle-même. C'est une chanson sur l'addiction à l'intensité émotionnelle et I guess pourtant la sauce ne prend pas. Il faudra attendre le 15 septembre 2023 pour avoir un nouvel élan avec la sortie de son septième projet, The Land is Inhospitable and So Are We. Ce projet a été pour moi une sacrée claque auditive et visuelle pour son esthétique noir et blanc, où elle met en valeur la persuasion et l'amour possessif. C'est un disque sur l'amour comme seule source de lumière dans un monde sombre et dévasté. C'est d'ailleurs avec le titre My Love, Mine, All Mine, 4 fois disque de platine au passage, sorti en 2023, que notre figure de la scène pop alternative revient au goût du jour sur TikTok, alors qu'elle avait quitté les réseaux sociaux 4 ans plus tôt. Mitski exprime l'idée que dans un monde où tout nous est enlevé, seul l'amour que l'on donne nous appartient vraiment. C'est son plus grand succès commercial à ce jour. On y retrouve des pépites telles que Bug Like an Angel, où elle traite la question de l'addiction et des promesses que l'on se fait à soi-même. Le contraste entre sa voix solitaire et l'irruption soudaine de la chorale sur le mot family est l'un des moments les plus puissants du projet. The Deal évoque une pièce dramatique où l'on demande à échanger son âme pour ne plus ressentir de la douleur. La progression vers un final de batterie chaotique symbolise la perte de contrôle et le poids de l'existence. Enfin, Heaven incarne une valse orchestrale somptueuse qui évoque un amour domestique et sacré rappelant les arrangements classiques de la country des années 50. Son nouvel album s'intitule Nothing's About to Happen to Me, que l'on peut traduire par Il ne va rien m'arriver. Que ça soit en mal ou en bien, nous sommes dans le flou et Mitski aussi. Pourtant, l'espoir en l'amour, cet amour nous appelant et nous rejetant, c'est le moteur de cet artiste toujours sensible. Croire lui demande un effort omniprésent à cette obstination, c'est indéniablement ce qu'il y a de plus notable dans bon nombre de ses chansons. L'album, quant à lui, incarne cette peur constante du vide sentimental. Ce projet est notamment l'occasion de réconcilier l'indie rock avec l'essence acoustique des ballades amoureuses avec un léger filtre de sonorité country. Le premier morceau de l'album de Mitski intitulé In a Lake est une pièce maîtresse qui pose le cadre conceptuel de l'album. La chanson explore le sentiment d'étouffement lié au passé et à la réputation. Mitski expose deux espaces, la ville au lac. Un premier lieu où l'on est prisonnier de ses erreurs passées, il utilise une métaphore marquante, celle d'une ville où l'on ne viendrait pas qu'une seule marque de savon, faisant que chaque personne dont on se rapproche sent comme une première fois. Cela illustre l'impossibilité avec une interaction neuve, sans que le souvenir d'anciennes relations ou d'erreurs ne vienne interférer. Le lac représente un espace de liberté solitaire, on peut y faire du dos indéfinitivement. Tandis que la grande ville est le seul endroit où l'on peut espérer l'anonymat pour recommencer à zéro. Le morceau marque une évolution sonore pour Mitski, mélangeant les influences de son précédent album avec des éléments plus bruts. Le titre commence avec un banjo légèrement pincé et un accordéon chaleureux, rappelant un style americana ou country folk. La chanson gagne en intensité avec l'ajout progressif de nombre de cordes et de cuivres en tant que morceau d'ouverture. In a Lake introduit le personnage central de l'album, une femme recluse vivant dans une maison négligée. La douceur mélancolique de ce nouveau contraste violemment avec la piste suivante, Where is my phone, qui bascule dans un rock beaucoup plus chaotique et anxieux. D'ailleurs, l'imagerie derrière le clip semblerait s'inspirer du film documentaire Grey Gardens, réalisé par les frères Mayles autour de la vie assez singulière d'Eddie Bouvier-Beal, vivant avec sa mère Edith, assez reclus dans un domaine de Long Island. On retrouve l'influence de l'horreur gothique. La maison, déjà décrite dans la première chanson, devient ici un labyrinthe où l'objet perdu, à savoir le téléphone, le seul lien avec le monde extérieur renforçant le sentiment d'enfermement. Si In a Lake était l'immersion calme avant la tempête, Where is my phone est le réveil brutal, c'est la deuxième piste de l'album, et elle marque un virage radical tant sur le plan sonore que psychologique. Le titre n'est pas une simple question logistique, c'est un cri de détresse. Le téléphone y est dépeint comme un prolongement du corps, une laisse numérique sans laquelle le narrateur se sent invisible ou inexistant. Mitski explore ce moment de panique où, privé de son écran, on est forcé de faire face à ses propres pensées et à la réalité vide de sa chambre. Musicalement, Mitski prend ici le contre-pied total du folk orchestral du morceau précédent. On passe de l'accordéon mélancolique à des guitares électriques saturées et une batterie nerveuse presque industrielle. Sa voix est plus haute, traduisant l'urgence et la paranoïa. Les critiques ont souvent comparé l'énergie de ce morceau à ses travaux plus anciens comme Bury at Makeout Creek, mais avec une production beaucoup plus dense et expérimentale, le texte cache une noirceur typique de l'écriture de Mitski. Elle évoque le besoin de vérifier si quelqu'un interagit avec elle, soulignant une soif de validation qui tourne à l'obsession. Le passage de Inner Lake à Where's My Phone illustre parfaitement le conflit central de l'album, le désir de disparaître opposé à la peur de l'oubli. Cats est la troisième piste de l'album et elle marque une transition fascinante vers une forme de surréalisme domestique après la panique technologique de Where's My Phone. Ce morceau nous replonge dans l'intimité close de la maison de la narratrice, mais sous un angle beaucoup plus étrange et métaphorique. Le morceau explore la relation complexe entre la narratrice et ses chats, qu'ils soient réels ou imaginaires. Mitski utilise les félins pour illustrer un sentiment de solitude partagée. Les chats sont dépeints comme des témoins silencieux et indifférents à sa détresse. Les yeux des chats qui brillent dans le noir de la maison agissant comme des miroirs, la narratrice s'y regarde et n'y voit que son propre ennui. On y entend des nappes de synthétiseurs éthérées et des percussions feutrées, presque comme des bruits de pas sur un tapis. Mitski chante ici d'une voix presque murmurée, très proche du micro, créant une sensation de proximité assez étouffante. Certains arrangements de cordes vers la fin du morceau rappellent l'étrangeté de ses travaux sur Puberty 2. En s'entourant d'animaux, la narratrice semble perdre sa propre humanité. Elle décrit son corps comme un meuble à relief sur lequel les chats circulent. Il y a une acceptation de la saleté et du désordre, en l'occurrence des poils de chat ou la poussière. C'est l'illustration parfaite du concept de maison négligé qui traverse tout l'album. On arrive ici à If I Live, la quatrième piste de l'album. Si les trois premiers morceaux installaient une forme de claustrophobie avec le lac, le téléphone ou encore les chats, ce titre agit comme un pivot émotionnel. Mitski explore l'idée que l'on finit par s'identifier à sa propre tristesse, quitter sa chambre ou sa routine d'isolement, c'est perdre une partie de soi. La peur exprimée est celle de devenir un fantôme. Si elle quitte la pièce, est-ce que les objets et les chats du morceau précédent se souviendront d'elle? C'est une réflexion sur la permanence de l'être et la chanson adopte un rythme de valse lente porté par un piano aux sonorités un peu poussiéreuses à nouveau, renforçant l'aspect intemporel et domestique vers la fin. Le morceau s'enrichit de chœurs lointains et de distorsions légères, suggérant que le monde extérieur est à la fois magnifique et terrifiant. Le titre fait écho à l'influence de Shirley Jackson qui traverse tout l'album, Shirley Jackson étant une écrivaine. Dans la littérature gothique, la portée est une frontière entre la sécurité qui est aussi une prison et le danger qui est aussi la liberté. Mitski chante « If I live, I leave it all behind. Si je pars, je laisse tout derrière moi », suggérant que le prix de la guérison est l'abandon total de son ancienne identité. Avec Dead Woman, la cinquième piste de l'album, Mitski nous plonge dans le cœur battant, ou plutôt le cœur arrêté, de l'influence littéraire de ce projet. C'est sans doute le morceau le plus sombre et le plus explicite sur l'aspect horreur gothique de l'album. Mitski s'inscrit ici dans une lignée de femmes réelles ou de fiction qui ont été effacées entre guillemets ou emmurées par la société ou par leur propre esprit. Elle chante comme si elle rejoignait un club invisible, celui des femmes mortes du titre sont celles qui l'ont précédée dans cette maison, dans cette solitude ou dans cette incapacité à s'adapter au monde. Il y a une acceptation macabre dans les paroles. Après s'être demandé si elle pouvait partir dans If I Live, elle semble ici conclure que rester et mourir symboliquement à petit feu est une forme de destin inévitable pour certaines. La chanson repose sur une percussion lourde et lente évoquant les bruits de pas dans un couloir vide ou le balancement d'une pendule. On y retrouve des cuivres dissonants et un orgue d'église qui donne au morceau une dimension sacrée et terrifiante. C'est l'un des moments les plus expérimentaux de sa discographie récente. Mitski utilise ici un registre plus grave, presque un murmure sépulcral, avant d'exploser dans un cri final étouffé par de la distorsion. Dans ce morceau, la maison n'est plus seulement un décor, elle devient un personnage qui dévore ses habitantes. On pense directement à l'idée que certaines maisons sont nées mauvaises. Mitski suggère que l'architecture même de sa vie est faite pour s'isoler. Dead Woman parle de la peur d'être oubliée alors qu'on est encore en vie. Elle se voit comme une trace, une tache sur le papier peint, rejoignant celles qui l'ont précédée. C'est une chanson sur l'abdication, la lutte contre la solitude s'arrête et la narratrice commence à se fondre dans l'obscurité de la maison. Dead Woman, c'est le moment où la mélancolie se transforme en une forme de deuil de soi-même. Je vous laisse vous faire à cette imagerie sonore et parolière. Vous êtes dans le radar des sorties, l'émission musicale riche en coups de cœur et découvertes sur RCN. Bonne écoute.
RCN, radar des sorties.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent ou nous découvrent. Vous êtes sur les ondes 90.7 de RCN, le son de la différence. Je suis votre humble serviteur Ludo et vous propose cette émission musicale qu'est le radar des sorties. Une émission qui vous fait découvrir ou redécouvrir les coups de cœur de la scène actuelle. Vous venez d'entendre Dead Woman de Mitski. C'est justement l'occasion pour moi de revenir sur son dernier album Nothing's About to Happen to Me, reprenant notre virée dans l'horreur gothique. Avec Instead of Here, la sixième piste de l'album, Mitski nous livre ce que beaucoup de critiques et de fans considèrent comme le morceau le plus bouleversant et le plus sombre de toute sa discographie. d'une chanson de dissociation pure où la narratrice cherche à s'extraire de son propre corps et de réalité pour échapper à la douleur. Le titre exprime un refus radical du présent, Miss Kin ne veut plus être ici, here, car ici est synonyme de souffrance. Elle chante « I'm not here, I'm where nobody can reach ». Je ne suis pas là, je suis là où personne ne peut m'atteindre. Ce lieu est une zone de sécurité mentale qu'elle a créée mais qui ressemble de plus en plus à un état de mort clinique, voire spirituel. Le texte contient d'ailleurs un dialogue fascinant et terrifiant avec la mort représentée comme une figure presque amicale ou familière qui flâne, mosey on back, en attendant que la narratrice soit vraiment prête. La mort lui rappelle avec une tendresse cruelle qu'elle est encore juste une enfant, soulignant la vulnérabilité extrême du personnage. Instead of Here est un contraste saisissant avec la noirceur de ses paroles portées par un orgue chaleureux, un piano délicat et une guitare acoustique. Le morceau a des airs de berceuse ou de balade country classique. Cette instrumentation apaisante rend les paroles sur l'abus et le désir de disparition encore plus poignantes. C'est le plaisir secret dont parle la narratrice, se flatter dans sa propre tristesse comme si c'était un péché mignon. Un couplet évoque un homme demandant à la narratrice de s'allonger dans la terre au lieu de lui donner de l'amour. Beaucoup d'auditeurs y voient une évocation de l'agression ou d'une relation profondément déshumanisante où la narratrice se sent obligée de se soumettre pour simplement exister aux yeux d'un autre. Minsky parle de sa tristesse comme d'une boîte qu'elle ouvre pour se sentir elle-même à nouveau. C'est l'idée que la douleur est devenue sa seule identité stable. C'est une chanson sur le mécanisme de survie par l'absence. Elle n'est plus en train de se battre contre la solitude. Elle a capitulé et a trouvé un confort morbide dans l'idée de ne plus être présente au monde. I'll Change For You est la septième piste et elle agit comme un miroir déformant au morceau précédent. C'est une chanson sur le people pleasing, le fait de tout faire pour plaire aux autres. Poussée à son paroxysme obsessionnel, Minsky explore l'idée de s'effacer totalement pour devenir ce que l'autre attend. Elle ne propose pas seulement de changer une habitude, elle propose de changer son essence même. C'est une promesse terrifiante car elle implique la mort du moi pour satisfaire un toi. En disant « je changerai pour toi », elle estime, elle essaye de reprendre le pouvoir sur une relation qui lui échappe. C'est la négociation ultime avant la rupture ou l'effacement total. C'est une technique qu'elle affectionne comme dans Nobody ou Dan the Dancer, mariée à une mélodie joyeuse et dansante à des paroles qui parlent de détresse psychologique profonde. On a envie de danser sur une déclaration de naufrage personnel, le texte suggère que la vie est une performance. Elle parle de porter une nouvelle personnalité comme on enfilerait un vêtement propre pour cacher la saleté évoquée dans Cats. Il y a une fatigue sous-jacente, on sent que c'est une promesse qu'elle a déjà faite mille fois, une boucle sans fin, où elle change de forme sans jamais trouver la paix. Avec Rules, l'album prend un tournant presque philosophique et froid après l'effondrement émotionnel et la dissociation de Instead of Here. Minsky semble reprendre ses esprits mais d'une manière glaciale. Elle tente de comprendre les lois invisibles qui régissent sa solitude et ses échecs. C'est une chanson sur la soumission à la fatalité. Dans Rules, Minsky explore l'idée que sa vie n'est pas un chaos accidentel, mais le résultat de règles strictes qu'elle s'impose ou que le monde lui impose. Elle chante l'impossibilité de changer de trajectoire si In a Lake parlait de l'envie de fuir. Rules affirme que les règles du jeu sont truquées d'avance. Les paroles suggèrent que la narratrice a essayé de suivre les règles pour être aimée ou heureuse, mais que ces règles ne s'appliquaient pas à elle. Il y a un sentiment d'injustice calme, une constatation que le monde fonctionne selon un code dont elle a perdu la clé. Musicalement, Rules reflète cette structure thématique par une production très contrôlée. Le morceau est porté par une boîte à rythme constante et sèche, évoquant le tic-tac d'une horloge ou le fonctionnement d'une machine. Cela renforce l'idée d'une vie qui se déroule selon un plan préétabli, sans place pour l'improvisation. Des nappes de synthé froid et circulaire tournent en boucle, créant une atmosphère hypnotique et un peu clinique. C'est l'un des titres les plus électroniques entre guillemets et minimaliste de l'album. Minsky chante avec une certaine distance, presque comme si elle lisait un manuel d'instruction ou un constat de décès. La maison thématique centrale de l'album devient ici un ensemble de règles physiques. On ne traverse pas les murs, on ne sort pas si la porte est verrouillée de l'intérieur. La narratrice se décrit comme, presque comme un automate qui suit ses propres habitudes destructrices parce que ce sont les seules règles qu'elle connaît encore. On arrive à la neuvième piste, That White Cat, qui agit comme une réponse directe et encore plus spectrale au morceau Cats. Si l'album était un film d'horreur psychologique, c'est ici que l'élément surnaturel ou hallucinatoire prendrait le dessus. On ne parle plus des chats en général, mais d'une figure spécifique, ce chat blanc. Le chat blanc est une figure classique du symbolisme, souvent associée à l'innocence ou aux fantômes. Ici, Mesquille utilise comme un témoin muet, la narratrice se sent sale, un thème récurrent depuis Inner Lake et Cats de nouveau. Le chat blanc, par sa propre immaculée, souligne par contraste le désordre mental et physique de la maison. Elle semble terrifiée parce que le chat voit. Dans son isolement, elle finit par prêter à l'animal une conscience et un jugement moral. Le chat n'est plus un compagnon, c'est une présence qui la hante. Musicalement, That White Cat s'éloigne de la chaleur americana pour quelque chose de beaucoup plus froid. Le morceau est dominé par des pianos électriques au son très aigu et des cloches tubulaires lointaines évoquant la blancheur et la froideur du chat. Le temps semble s'arrêter, la voix de Mitski est traitée avec beaucoup de réverbération comme si elle chantait dans une pièce vide et carrelée. Elle essaie de toucher le chat mais il glisse entre ses doigts ou reste à distance, tout comme son propre bonheur ou sa santé mentale. On pense à la figure du familier dans les histoires de sorcellerie, le chat est le seul lien qui reste entre elle et la réalité mais c'est un lien qui la rend folle. Avec Charon's Arbor, l'obol de Charon, la dixième piste, Mitski nous emmène sur un terrain explicitement mythologique. Le titre fait référence à la pièce de monnaie que les Grecs plaçaient dans la bouche des morts pour payer le passeur Charon afin de traverser le Styx vers les enfers. C'est le morceau de la transition finale et du renoncement. Après avoir erré dans sa maison hantée et s'être perdue dans ses propres reflets, la narratrice accepte l'idée d'un voyage sans retour. Mitski utilise l'obol comme métaphore de ce qu'il reste d'elle. Elle n'a plus rien à offrir au monde des vivants, alors elle garde ses dernières ressources, en l'occurrence sa pièce, pour s'assurer un passage paisible vers l'oubli. C'est l'acceptation que la solitude n'est pas un état temporaire, mais une destination. On entend des sons de synthétiseurs qui ondulent comme de l'eau sombre. La production est très immersive, donnant l'impression que la voix de Mitski vient des profondeurs. Le tempo est celui d'une rame qui frappe l'eau de manière régulière. C'est une chanson très atmosphérique, presque dépourvue de structure couplet-refrain classique, privilégiant une montée en tension sourde. C'est une voix fatiguée directe qui murmure à l'oreille du passeur. Si le lac du début était un espace de liberté mélancolique, l'eau de Charon's Arbor est celle de la fin. On passe de la baignade récréative à la traversée rituelle, la maison, les chats, le miroir ou encore le téléphone, et enfin laisser derrière. La narratrice sort de son enfermement physique pour entrer dans un enfermement mythique. Mitski traite la dépression ou l'isolement non plus comme un problème psychologique mais comme un rite de passage spirituel. Nous y sommes enfin, Lightning, l'acte final. Si l'album s'est construit comme une descente lente et étouffante dans l'obscurité d'une maison hantée et les eaux du Styx avec Charon's Arbor, ce dernier morceau est l'électrochoc qui vient tout briser. Le titre « L'éclair » en français symbolise un instant de clarté qui ne dure qu'une fraction de seconde mais qui change tout. Après des chansons de dissociation et d'abdication, l'éclair représente la réalité qui frappe enfin la narratrice. Ce n'est pas forcément une fin heureuse, mais c'est une fin vraie. Le titre de l'album disait « Rien ne va m'arriver ». L'éclair est l'événement qui prouve le contraire, quelque chose est arrivé. Mitski chante la terreur de cet instant de lumière qui expose tout ce qu'elle essayait de cacher dans l'ombre de sa chanson. Cela, en l'occurrence la saleté, les miroirs, sa propre solitude. Le morceau commence dans un silence presque total avec juste un bourdonnement basse fréquence avant d'exploser dans un mur de son composé de guitares saturées et de percussions tonnantes qui imitent le fracas du tonnerre. Mitski lâche prise, elle passe du murmure fatigué des morceaux précédents à un chant puissant, presque crié, qui rappelle l'énergie brute de son album Bury Me at Maker Creek. Le morceau ne s'éteint pas doucement, il s'arrête net, laissant l'auditeur dans un silence assourdissant. On peut l'interpréter comme la destruction de la prison mentale de la narratrice. Pour sortir du Instead of Here, il fallait qu'il soit détruit. La lumière de l'éclair est naturelle, elle vient de l'extérieur. C'est le premier signe de vie sauvage et incontrôlable dans un album qui était jusqu'ici très domestique et contrôlé. Lightning, c'est le cri de quelqu'un qui réalise qu'il est encore en vie, même si cette vie fait mal. C'est une fin ouverte, la maison brûle, le silence est rompu, et la narratrice est enfin exposée à la lumière du ciel. Avec des références littéraires comme The Haunting of Hill House et We Have Always Lived in the Castle de Shirley Jackson, chaque titre est écrit comme une pièce de théâtre miniature où l'intime croise le fantastique, la nostalgie s'écrivant dans l'exagération. C'est sur cette note très Tim Burton que se conclut l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'être au rendez-vous et de m'avoir écouté. Au plaisir de vous faire découvrir de nouveaux coups de cœur. Salut et à la prochaine.